Chapitre 7. Quand Victor se disait que Marichette était une fille honnête et innocente, il ne se trompait pas. Mais honnêteté et innocence ne sont pas synonymes de niaiserie et d'aveuglement, surtout chez une fille de 15 ans. Si jamais aucun homme ne lui avait parlé d'amour, elle s'en était parlée elle-même. Et pour cela, elle n'avait pas attendu jusqu'à 15 ans. Est-ce que, quand elle était petite fille, encore toute petite fille, le mot « amour » ne retentissait pas déjà à ses oreilles ou ne passait pas sous ses yeux? Dans ses livres de dévotion, au sermon de M. le vicaire, est-ce qu'il n'était pas question à chaque instant d'amour, de fiancé et d'époux? Amour divin, il est vrai, fiancé céleste, époux du ciel. Oh, mes chères filles, quelle joie ineffable il donne à ses fidèles, l'amour du divin Jésus! Elle avait précisément une de ces natures qui trouvent des joies ineffables à se griser d'idées vagues, puisées dans le sentiment plutôt que dans l'esprit. Ce qu'était l'amour, elle n'en savait rien, mais elle sentait qu'il devait justement donner ces joies ineffables dont on lui parlait. Amour céleste, amour terrestre, qu'importait ? Elle n'avait pas de distinction à établir. Une seule chose certaine, l'amour était un état de béatitude parfaite. Pour elle, d'autant plus grande cette béatitude, qu'elle était de complexion tendre, ayant toujours eu besoin d'être embrassée et caressée. Ça avait été par le nez et par les joues que ses poupées avaient péri, pour avoir été trop souvent et trop passionnément bécotée. Au temps où elle avait son père et sa mère, elle allait de l'un à l'autre, les embrassant et se faisant embrasser, sans raison, sans prétexte, pour rien, pour le plaisir. Mais cela n'empêchait pas qu'elle pensât au moment où elle aurait un mari qui, lui aussi, l'embrasserait bien. Et quel baiser elle lui donnerait sur les nœuds! Alors elle rêvait les félicités qu'une femme trouvait dans le mariage, faites uniquement de tendresse et de caresses, n'imaginant pas qu'on pût se marier pour autre chose que pour s'embrasser et se caresser. Il y avait bien aussi les belles robes et les bijoux que donne le mari, mais cela n'était que secondaire. Avant tout, l'amour. Et le mari lui-même, jeune, beau, bon, disposé à se laisser aimer. Son père mort, elle n'avait plus eu que sa mère à caresser. Sa mère morte, elle n'avait plus eu personne, puisque son cousin n'avait pas besoin d'affection. Alors, il n'avait plus été question de mari. Où était-il, le mari rêvé? Une pauvre fille comme elle ne se marierait pas. C'était dans le néant qu'elle était tombée en arrivant à Saint-Maclou, et pendant bien des heures de ces longues nuits, elle avait cru qu'elle aussi était morte. Au moins, l'était-elle pour l'amour et les espoirs de son enfance. Plus jamais autour d'elle d'affection, plus personne à aimer. Elle vivrait seule, sans autre but dans la vie que de vivre dans le vide du cœur. Plus d'amour. Cependant, il n'avait pas fallu bien des semaines pour qu'elle devinât que c'était de l'amour que ces deux jeunes gens éprouvaient pour elle, et cela sans cesser d'être une innocente et honnête fille. Ce n'était pas seulement pour lui donner des nouvelles de Psyte que Paulin avait dérangé leur table. Il n'y avait pas seulement de la compassion dans son sourire, et même, il n'y avait pas seulement de la sympathie. Ce n'était pas seulement parce qu'elle aimait les fleurs que tous les matins, il lui avait apporté des violettes, des cires, des primes verts. De même, ce n'était pas par pure coquetterie que Victor frisait ses cheveux plats d'une façon si drôlatique, ni qu'il embaumait le foin comme un bottleur. Ce n'était pas pour se dégourdir les jambes qu'il venait tourner autour d'elle comme une bête dans sa cage. Ce n'était pas parce qu'il avait mal aux dents ou mal au ventre qu'il poussait des soupirs à faire tourner des moulins. Si elle n'avait jamais vécu avec des amoureux, et si elle n'en avait jamais eu elle-même, ses réflexions, son instinct féminin et aussi ses lectures lui avaient éveillé les idées. Dans ces deux dernières années passées auprès de sa mère, ce n'avait plus été seulement les livres de dévotion de la pension où il était question d'amour divin qu'elle avait lus, mais toute une collection de journaux, de publications illustrées, de romans que les hasards des relations lui avaient mis aux mains. En avait-elle vu des amants dans ce monde romanesque, depuis les princes charmants jusqu'aux héros du bagne? Elle ne pouvait pas s'y tromper, il l'aimait. Tout le montrait, tout le prouvait, il eût fallu vraiment qu'elle fût aveugle ou stupide pour ne pas le voir. Mais ce double amour ne pouvait pas produire le même effet sur elle. Si l'un la charmait, l'autre l'effrayait. Ce n'était jamais sans émoi qu'elle voyait Victor entrer, l'air inspiré, résolu, en vainqueur. Qu'allait-il dire ? Il lui fallait vraiment faire un effort pour paraître indifférente et pour continuer de travailler avec toutes les apparences d'une tranquillité parfaite. En réalité, elle avait peur, très peur. Elle était seule avec lui dans cette vaste maison et les jours de froid ou de vent, les portes et les fenêtres closes. Que répondre s'il parlait ? Et puis, elle ne craignait pas seulement qu'il parlât. Dans les romans qu'elle avait lus, les amoureux ne s'en tenaient pas aux paroles dans la scène de la déclaration. Que ferait-elle s'il voulait lui embrasser les mains ? Quand il se contentait d'allusions plus ou moins directes, en disant ce qu'il était et ce qu'il serait, c'était bien, elle pouvait avoir l'air de ne pas comprendre. Quand il lui expliquait que, du jour où il aurait fait fortune, ce qui ne pouvait manquer d'arriver, il reprendrait le nom qu'avaient porté ses ancêtres et auquel son père avait renoncé par suite du malheur des temps, de, dessus, la, mare, en quatre mots, elle pouvait aussi en rire. Tout cela n'était pas d'un danger immédiat. Mais quand il la regardait en roulant des gros yeux blancs, avec une face rouge comme s'il allait éclater, ou bien quand tout à coup, après un long moment de silence, il poussait un formidable soupir, elle n'était pas maîtresse de son premier mouvement et vivement, elle cachait ses mains sous la table. Au contraire, ce n'était jamais sans trouble qu'elle voyait Paulin arriver. Au commencement de son séjour à Saint-Maclou, elle ne s'inquiétait pas de savoir si elle serait la première ou la dernière au bureau. Pourvu qu'elle y fût en temps pour satisfaire son oncle, cela suffisait. Mais bientôt, elle avait voulu être là quand il entrait. Avant qu'il eût mis la main sur le bouton de la porte extérieure, elle avait reconnu son pas et tout bas elle se disait « C'est lui, le voilà !» Jamais elle ne se demandait « Que va-t-il dire ?» Et s'il lui fallait faire un effort, c'était pour ne pas montrer à tous son contentement. C'est qu'elle n'avait pas peur qu'il parlât, celui-là. Ce qui l'avait tout d'abord touché, c'était l'extrême réserve qu'il avait mise à lui témoigner de la sympathie. Ce qui la charmait, c'était la discrétion qu'il apportait dans leur relation de chaque jour. À son sourire, le sourire pouvait répondre. Avec lui, il n'y avait jamais à se demander si le moment n'était pas venu de se cacher les mains sur la table. À la vérité, il ne ressemblait pas aux amoureux des livres qu'elle avait lus. Mais si elle en avait imaginé un, elle ne l'aurait pas voulu autre que n'était celui-là. Que pouvait-elle désirer de plus ? Elle n'était plus seule. Son cœur qu'elle avait cru mort vivait. L'effroyable peur du néant qui l'avait paralysée ne pesait plus sur elle. Il était là. Et elle n'avait pas autre chose à lui demander que d'être là. Il était son sauveteur, il l'avait repêché. Elle le voyait chaque jour et quand elle ne le voyait pas, elle pensait à lui. Elle se rappelait ce qu'il avait dit, elle se réjouissait de le voir le lendemain. Dans sa vie, il y avait un but, dans son cœur, une espérance ou un souvenir. Qu'adviendrait-il de cet amour ? Elle ne cherchait pas à le deviner, tout était bien ainsi. Elle avait été assez malheureuse pour se contenter du présent, sans s'inquiéter de l'avenir, car maintenant, elle avait un présent. Il en était de son cœur, comme de la chambre qu'elle habitait. Depuis qu'elle était à Saint-Maclou, rien n'avait été changé à l'ameublement de cette chambre. C'était toujours le même lit de sangle posé sur des X, la vieille table de nuit, la même chaise dépaillée. Aux fenêtres, on n'avait pas mis de rideaux. Et sans quelques clous qu'elle avait enfoncés au mur pour accrocher ses vêtements, sans une caisse que Divine lui avait trouvée pour serrer son linge, les choses eussent toujours été dans le même état qu'à son arrivée, aussi froides à l'œil, aussi misérables pour le bien-être. Et cependant, ce froid et cette misère, qui si souvent l'avaient glacée, lorsqu'elle les comparait à la chaleur et au moelleux du nid de son enfance, n'étaient plus sensibles pour elle. Après le dîner en tête-à-tête avec son cousin, qui n'avait pas dit un mot, quand elle montait à sa chambre pour se coucher, elle ne voyait plus ni le pauvre lit de sangle dont une servante n'aurait pas voulu, ni la vieille table de nuit, ni la chaise dépaillée. Dans cette immense pièce sombre, il y avait un tout petit verre posé sur le marbre de la cheminée qui la meublait et l'éclairait, celui dans lequel, chaque matin, elle déposait religieusement les quelques fleurs que Paulin avait laissées tomber au-dessus de sa tête. De même, dans son cœur, il y avait une fleur qui le parfumait, la tendresse de Paulin.